avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comme chaque mois, des conseils pour les jeunes en recherche d'emploi. Si vous êtes jeune diplômé, cette émission vous concerne forcément. On va discuter de tout ce qui vous intéresse, comment valoriser votre CV, vos diplômes, parler de votre expérience professionnelle, de vos compétences, même sans expérience en entreprise formelle d'ailleurs. On a forcément des compétences tous. C'est le moment de poser toutes vos questions. Nos spécialistes vous écoutent. Vous conseille. Bien sûr aussi, vous pouvez envoyer vos CV. Notre numéro de WhatsApp, c'est le 33 7 64 45 51 41. 33 7 64 45 51 41. Vos appels en direct, vos messages vocaux, vos messages écrits. Vous êtes déjà très nombreux, comme chaque mois, à nous contacter. Dans le studio à mes côtés, Farida Akadiri. Bonjour Farida.
Bonjour Emmanuel.
Et merci d'être fidèle au poste
avec
pour aider
plaisir.
Les jeunes du continent. Consultante pour leader, manager, entrepreneur. Également avec nous, Agnella Vekwaku, en direct d'Abidjan. Bonjour Agnella.
Bonjour Emmanuel, bonjour Farida, bonjour les voisins et voisines.
Bonjour Agnella.
Vous êtes consultante en ressources humaines, fondatrice de Agiloya Afrique, un cabinet de conseil en Côte d'Ivoire. Allez, c'est parti, vous nous appelez. Les voisins et les voisines au 33 7 64 45 51 41. On va tout faire pour vous aider à vous insérer professionnellement et à bien diriger vos carrières à partir de vos diplômes.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
À diriger vos carrières et à vous épanouir aussi dans les métiers que vous avez choisis. Nous sommes en ligne avec un premier voisin, Amadou, qui a 29 ans, qui nous appelle de Garoua, du nord du Cameroun. Bonjour Amadou.
Bonjour Emmanuel.
Eh bien, soyez le bienvenu. Amadou, vous êtes ingénieur de conception en réseau informatique. Vous avez envoyé un CV très fourni que j'ai sous les yeux. Et vous avez trois questions très précises pour nos spécialistes. La première question, on vous écoute, Amadou.
D'accord. Bonjour à tous les voisins et les voisines. Et ma première question, je l'entends directement sans plus tarder. Ma première question, c'est par rapport à la peur sur...
Oui, Amadou, est-ce que vous êtes toujours en ligne avec nous? Je sais que vous avez 3 ans d'expérience professionnelle en tant qu'ingénieur de conception en réseau informatique. Est-ce qu'on aurait perdu Amadou? Est-ce qu'Amadou est toujours en ligne avec nous? On l'a perdu. Alors, peut-être, Agnella, est-ce que vous avez son CV aussi sous les yeux, le CV d'Amadou?
Alors, j'ai effectivement le CV d'Amadou qui relate un certain nombre d'expériences. C'est un ingénieur de conception, hein, réseau informatique, avec trois années d'expérience dans le domaine de l'IT support. On y lit beaucoup de choses, donc je crois qu'il y a vraiment beaucoup de compétences mises en lumière. Et ce qui serait intéressant de voir, c'est vraiment son projet professionnel, en fait. Et qu'il construise, en fait, son projet, enfin son CV, en fonction d'un projet spécifique.
Alors, Amadou, sa première question, Farida, je pense que ça vous concerne, parce qu'en gros, il dit « J'ai 3 ans d'expérience, je me sens sous-exploitée. J'ai peur de perdre mes compétences. Et pourtant, au début, quand j'ai pris mon poste, j'étais beaucoup plus motivée pour travailler pour moi-même, pour maintenir mon niveau professionnel. Et aujourd'hui, évidemment, j'ai peur de chercher un nouveau poste. Comment reprendre confiance en moi ?» C'est vraiment le cas de quelqu'un qui n'est pas épanoui sur son poste et qui est en train finalement un peu de dégringoler par rapport à ses compétences de départ.
Alors, c'est un excellent point parce que, et ça, quel que soit le où on se situe dans sa carrière, que ce soit en début de carrière, en milieu de carrière, on peut perdre cette confiance en soi, on peut se retrouver dans un poste qui ne nous épanouit pas. Et le premier élément justement pour combattre le manque de confiance en soi, c'est le passage à l'action. S'il sent qu'il est sur un poste qui ne l'épanouit plus, où il est en train de perdre en compétences, en fait, il ne faut pas qu'il se laisse mourir, entre guillemets, sur ce poste. Oui. Et qu'il se mette justement en mouvement de se reconnecter avec le marché. Qu'est-ce qui se passe dans les autres entreprises pour pouvoir justement sortir de là et se retrouver dans un environnement où il va être une valeur ajoutée pour une entreprise, parce qu'il y a forcément une entreprise qui attend tant qu'ils recherchent ces compétences, mais dont ils sont privés parce qu'ils ne savent pas qu'il existe, en fait. Donc, surtout, Abdoul, quand vous allez, Amadou, quand vous allez entendre ce message...
Oui, il est, ça y est, on l'a retrouvé, Amadou. Amadou, vous avez entendu les conseils de Farida, vous avez 29 ans, c'est un peu tôt pour mourir sur votre poste de travail, hein, si vous n'êtes pas épanoui et que vous êtes en train de perdre vos compétences parce que vous vous sentez sous-exploité.
Donc, il faut mettre en place une stratégie. L'idée n'est pas de partir comme ça du jour au lendemain, mais comme disait tout à l'heure Agnella, de réfléchir à votre projet professionnel, construire un projet, construire une stratégie et ensuite vous mettre en mouvement pour rechercher l'entreprise qui va le plus vous épanouir. Donc, ça veut dire aussi que vous devez être conscient de vos besoins dans un environnement de travail.
Mais Amadou, vous nous avez dit, quand vous avez contacté Delphine au Standard, que vous avez peur de chercher un nouveau poste. Pourquoi ?
Oui, souvent, j'ai cette peur-là parce que je me dis peut-être que la période d'essai qu'on va me donner ne me permettra pas d'exprimer valablement mes compétences vu que j'ai fait beaucoup de temps sans m'exercer et tout. C'est ça qui constitue un peu cette peur.
Oui, donc c'est normal que vous ayez peur, mais vous devez avoir confiance en vous, en fait. Vraiment vous dire que vous vous appuyez d'abord sur un socle théorique, ce sont vos compétences. Et donc, c'est aussi à vous de vous entraîner, de relire toutes vos formations pour rester à jour. Mais aussi, appuyez-vous sur vos expériences, en fait. Et c'est vraiment de vous dire, OK, la période d'essai, c'est aussi l'opportunité pour vous de montrer ce dont vous êtes capable. N'ayez pas peur des challenges, mais utilisez-les pour révéler votre potentiel et ce que vous pouvez apporter. Si vous avez la bonne attitude, si vous êtes motivé, si vous êtes engagé, on ne va pas vous dire non parce que vous ne maîtrisez pas tout, mais au contraire, on va vous donner votre chance. Donc, vous devez la saisir. Ne laissez pas la peur vous laisser mourir là où vous êtes.
Amadou, vous n'avez que 29 ans, hein, donc un échec n'est pas définitif. Vous avez deux autres questions que vous allez poser à Agnella, qui est avec nous aussi à Abidjan. Amadou.
D'accord. La deuxième question, c'est plutôt comment postuler sur plusieurs offres chez un même employeur en même temps ? Parce que dans certains cas, on se rend compte qu'il y a des situations où l'employeur propose de recruter dans plusieurs domaines. Et il arrive que ces domaines-là, dans ces domaines, un candidat trouve qu'il a les profils requis. Donc, comment faire postuler pour toutes ces offres ou choisir un seul ?
Alors, que faire, Agnella ?
Alors, écoutez, Amadou, moi, je vous demanderais déjà qu'est-ce qui vous motive à postuler pour ces différentes offres. Ça, c'est vraiment essentiel. Pour répondre à votre question, bien sûr, cela est possible, mais sous certaines conditions. Il va falloir être transparent face aux recruteurs, ça, c'est vraiment le mot d'ordre, et que vraiment les offres pour lesquelles vous postulez sont en phase avec vos compétences et vos motivations. Pensez bien à construire votre CV en fonction des différentes offres et vraiment préciser dans la lettre de motivation que vous avez répondu à plusieurs opportunités, à plusieurs offres. La transparence est vraiment la clé et cela vous rend crédible face aux recruteurs qui vont réceptionner justement votre profil.
D'accord.
Quand vous parlez de... Oui, allez-y Amadou.
Oui, ça veut dire que dans la lettre de motivation, dans l'une des lettres, je dois préciser que j'ai postulé pour telle offre aussi.
Oui, c'est ça.
Absolument. C'est exactement ça. Exactement ça. Et pour quelle raison ?
Moi, j'ai une question complémentaire pour Amadou. Quand vous dites qu'il faut absolument être transparent, bon, dire qu'on a postulé pour plusieurs offres, est-ce qu'il faut dire aussi en entretien qu'on est à l'heure actuelle sur un poste où on est sous-exploité, où on n'est pas au maximum de ses capacités, ou bien finalement, ça équivaut à critiquer son employeur actuel et ce n'est pas bien vu ?
Alors, moi, je prône vraiment la transparence, mais avec la manière, je veux dire, de le faire.
Diplomatique.
Si Amadou a observé véritablement les raisons pour lesquelles il s'ennuie, s'il a vraiment observé tout ce qui va être émotion et ressenti, se dire « je fais le tour de ma fonction aujourd'hui », la priorité, c'est déjà de pouvoir en parler à sa hiérarchie. Et s'il n'y a pas de possibilité d'évolution à ce moment-là, ça s'entend qu'il est déjà prêt pour une prochaine étape. Farida a donné des conseils à Vivé, que Amadou prenne le temps de faire un bilan, qu'ils prennent une feuille blanche et que justement ils remettent en lumière tout ce qu'il a appris, la théorie, tout ce qu'il a pu réaliser comme mission au jour le jour, qui va lui permettre de gagner confiance et s'asseoir vraiment sur ses compétences et rebondir par la suite.
Amadou, vous avez une dernière question à poser à Agnella.
Oui, la dernière question, c'est comment se rapprocher du recruteur après une longue durée, après un entretien ? Cela peut-il avoir un avantage ?
Bien sûr, bien sûr. Il faut rappeler un recruteur après un entretien. Cela va montrer votre intérêt, votre motivation pour le projet. Alors, soit pendant l'entretien, il vous a communiqué un délai. Et à ce moment-là, effectivement, il faut attendre que le délai passe. Et il ne faut pas, par exemple, le recontacter sous 2 jours s'il vous a dit qu'il allait vous rappeler dans 2 semaines. Et s'il n'y a pas de délai qui était indiqué, vous pouvez le relancer poliment, on dira, sous 7 à 10 jours maximum. Ça montre que vous êtes motivé, toujours à l'écoute.
D'accord. 12 à 7 jours.
12 à 7 jours. Voilà, vous mettez l'alarme dans votre téléphone, dans votre calendrier, Amadou.
7 à 10 jours.
7 à 10 jours, c'est ça.
7 à 10 jours, pardon.
7 à 10 jours.
Amadou, où est-ce que vous avez étudié? Où est-ce que vous avez obtenu votre diplôme d'ingénieur de conception en réseau informatique?
J'ai fait le parcours en 2 étapes. D'abord, la licence à l'université de Ngaoundéré. Et ensuite, le diplôme d'ingénieur de conception à l'Institut supérieur du Sahel, actuellement devenu Polytechnique.
D'accord. Ça apparaissait pas de manière très, très claire sur le CV. Merci beaucoup.
Il faut aller chercher l'information. Hein,
oui, exactement. Ouais. En tout cas, vous avez un beau CV, vous êtes très diplômé, très compétent. Donc, il faut vraiment mettre tout ça en valeur sur le CV. Merci Amadou. Tenez-nous au courant de vos évolutions. J'espère que vous allez pouvoir trouver le poste à la mesure de vos compétences. Merci et très bonne journée à vous, Amadou, à Garoua, dans le nord du Cameroun.
D'accord, merci et bonne suite.
Merci à vous. Vous nous appelez tous au 33 7 64 45 51 41. Allez, on prend un autre candidat sur le marché du travail. Abdou, qui a 30 ans, qui est à Ouagadougou, au Burkina Faso. Bonjour Abdou.
Oui, bonjour.
Alors Abdou, vous avez envoyé votre CV, vous avez un bac plus 2 à l'université Norbert Zango de Koudougou, mais sur le CV, Farida, vous me dites si je me trompe, mais je ne vois... Vous avez un bac plus 2 en quoi? Vous ne l'avez pas mis?
J'ai un bac plus 2 en archiviste.
D'accord, archivisme.
Oui.
D'accord.
On ne voit pas.
Non, ouais, c'est pas écrit. Non. Ça dépend de quoi, ça? C'est la faculté des lettres?
Oui, la science de l'information documentaire.
D'accord. Bon, ben ça, il faut le mettre parce que vous avez juste mis bac plus 2. Hein. Alors, bac plus 2, c'est quand même très large. Quel est votre problème? Quelle est votre question, Abdou?
Bon. J'ai eu l'annonce et j'ai postulé à l'annonce avec mon CV.
Une annonce de quoi?
Le CV qui pour être archiviste.
Oui.
Dans une banque.
D'accord.
Oui. Et maintenant, les tâches qui m'attendent sont déjà citées ci-dessous. Et maintenant, je vois que les expériences que j'ai acquises et les différentes tâches que j'ai eues à faire, voilà, je vois que ce serait un peu compliqué pour moi.
Ben oui, vous avez effectué un stage à la mairie de Koudougou et vous avez effectué un stage au ministère des Affaires étrangères.
Oui.
Mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi déjà vous-même, vous pensez que ça va être compliqué pour vous-même.
Bon. Et au niveau des stages, les expériences que j'ai acquises là-bas, je vois que dans une banque, ce serait un peu compliqué pour moi.
Donc pourquoi vous voulez postuler dans la banque, en fait?
Bon, à travers les tâches qu'ils ont indiquées, je vois que je peux y arriver si mon supérieur m'aide au début.
Oui, mais vous ne répondez pas. Pourquoi vous avez envie d'aller dans une banque pour travailler comme archiviste si vous n'avez jamais fait de stage dans une banque et jamais fait de stage réellement dans un service d'archives? C'est ce que je comprends, Abdou?
Oui, j'ai eu à faire un stage dans un service d'archives, mais ce n'est pas trop approfondi.
Mais où ça?
Et au niveau du ministère des Affaires étrangères du Burkina.
Ah, parce que vous ne l'avez pas mis. Vous avez mis stage au ministère des Affaires étrangères, mais vous ne dites pas ce que vous avez fait. Vous ne dites pas que vous avez fait service des archives. D'accord.
Ok.
Vraiment, ce qui est dommage, Abdou, parce que vous avez quand même une formation et une expérience en lien avec le projet que vous ciblez, et à aucun moment on ne le voit sur votre CV. Votre expérience d'archiviste, elle n'est pas mise en valeur. On voit des titres, mais pas les réalisations. On ne voit pas ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez réalisé quand vous étiez justement en exercice professionnel? Ce que vous savez faire, c'est ce qu'on nous, on veut recruteur dans votre CV. Donc, il va falloir vraiment travailler, retravailler votre CV dans ce sens.
Ça veut dire que le CV à l'heure actuelle, tel qu'il est rédigé, ne peut pas intéresser un recruteur dans une banque qui pourtant offre un poste d'archiviste et qui correspond à votre diplôme. C'est-à-dire qu'il faut donc qu'Abdou réécrive son CV en détaillant beaucoup mieux quelles sont ses compétences qu'il a acquises au fil des stages.
C'est vraiment de prendre conscience que le recruteur, votre CV, c'est une carte de visite. Et si vous ne maîtrisez pas les codes pour créer l'intérêt chez le recruteur, même si vous avez une expérience, vous n'allez pas y arriver, en fait. Parce que là, on a dû vous tirer les vers du nez pour avoir les informations. Mais un recruteur n'a pas ce temps-là, en fait. Il ne va pas vous appeler pour savoir. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de maîtriser les règles de base du CV et vraiment que ce soit lisible, en fait. Donc, vous avez marqué en gros curriculum vitae. On se doute bien que c'est votre CV. Et ce qui est le plus important pour nous, c'est de savoir quel est votre projet professionnel, comme dit Agnella, quel est le titre, quel est le poste que vous recherchez. Donc là, ça va être marqué, par exemple, archiviste. Même votre formation. Donc vraiment, bon, très bien, on connaît les lycées, mais on ne sait pas exactement ce que vous avez fait. Donc, c'est un peu un jeu de devinettes et ce n'est pas le but, en fait. Un recruteur n'a pas le temps de jouer aux devinettes, en fait.
Oui, alors par exemple, quand curriculum vitae, ça, vous pouvez l'enlever de la feuille, ça va vous faire gagner de la place. Et puis à la fin, quand vous écrivez « J'atteste sur l'honneur que toutes ces informations fournies dans ce curriculum vitae témoignent de ma personnalité », fait à Ouagadougou, etc., le 14 octobre, inutile, hein, ce n'est pas la peine. On se doute que vous êtes transparent.
C'est pour ça que je parlais de code. Un CV, c'est doit répondre à des codes. Et là, on voit clairement que vous ne maîtrisez pas les codes. Donc, si vous avez du mal à maîtriser les codes, sachant que toutes les informations aujourd'hui sont disponibles sur Internet, une banque ne va pas vous recruter parce qu'elle va dire, il ne connaît pas les codes de base. Comment il va connaître les codes à la banque? Ils ne peuvent pas prendre ce risque.
Mais si vous restez à l'écoute, Abdou, vous allez les connaître, les codes du CV. Vous allez voir parce que finalement, ce n'est pas très compliqué et vous avez toutes les compétences pour être recruté. Abdou, alors restez bien à l'écoute, on va enchaîner avec d'autres auditeurs qui ont aussi, comme vous, beaucoup de questions sur les CV. Vous savez, vous n'êtes pas seul hein, dans l'embarras. Merci à vous, Abdou, et on vous souhaite une très belle journée à Ouagadougou.
Okay, merci à vous, Parama.
Ouais, restez à l'écoute, hein, surtout de 7 milliards de voisins. On donne la parole à Bayine, qui est à N'Djamena et qui est en licence en RH au Tchad et qui a 30 ans. Bonjour, Bayine.
Bonjour
Bayine, on vous écoute, vous avez aussi des questions hein, par rapport au CV. Dites-nous un petit peu votre parcours.
Oui, j'avais une question. Bonjour Emmanuel. Tout d'abord, je présente mes salutations à toute l'équipe.
Merci. Merci à vous.
Merci.
Oui, il y avait juste un problème au niveau des lettres de motivation. Je vois que chaque lettre de motivation correspond à chaque demande d'une entreprise, à ce que je vois. Et la lettre que j'ai envoyée, je ne pense pas si vous pouvez me citer, je ne sais pas si elle est bonne ou pas.
Et vous avez une question plus large aussi, en dehors de la lettre de motivation?
Oui, à propos de l'entretien.
Oui.
Parce que certains entretiens, je vois que je suis vraiment embauché dans une institution de la place. J'ai passé un petit entretien, dirons comme ça. Et cet entretien ne m'a pas beaucoup plu. Quant à moi, parce que j'ai suivi beaucoup d'entretiens, mais c'est complètement différent. Je ne sais pas si vous pouvez me situer un peu.
Et à l'heure actuelle, Bayine, vous avez un emploi ou pas?
Oui, j'en avais.
Vous
en
avez?
Je viens de signer un contrat d'un an, de 5 mois.
D'accord, ok. Vous venez de terminer.
Depuis juin 2021.
Vous venez de terminer un contrat. Vous aviez un poste d'administrateur de crédit, hein, c'est ça? Dans une banque.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Et pourquoi on ne le voit pas sur le CV?
Eh bien voilà, c'est ce que j'étais en train de chercher désespérément. Pourquoi
votre CV s'arrête en 2019, on est en 2021.
Pardon?
J'ai dit votre CV s'arrête en 2019, alors que nous sommes en 2021. Donc toutes vos expériences...
Oui,
bon, il y a eu la pandémie, hein, mais quand même...
Oui, mais il vient de me dire qu'il vient de terminer un stage.
Eh bien oui, c'est ça, c'est pas sur votre CV. Donc peut-être il faut réactualiser le CV, Bayine. Restez en tout cas à l'écoute. Ouais, restez à l'écoute. On va couper la ligne, mais vous surtout, vous continuez d'écouter l'émission parce que d'autres questions aussi rejoignent un peu votre préoccupation. On écoute la question de cet auditeur sur le CV, sur la lettre de motivation aussi. Écoutez-le.
Alors bonjour, 7 milliards de voisins, voisines. C'est Philippe depuis Lomé au Togo. Quelle est la différence entre un CV simple et un CV actualisé? Parfois, on dit aussi un CV actualisé ou un CV détaillé. Est-ce qu'il y a une différence entre ces trois dénominations dans la recherche d'emploi? On parle aussi de la lettre de demande ou encore la lettre de motivation, oui. Est-ce qu'il y a encore la différence entre lettre de motivation et lettre de demande? Merci, 7 milliards de voisins et voisines.
Bon, question simple et pertinente. La différence entre un CV détaillé et un CV actualisé. Bayin nous a envoyé un CV non actualisé, parce que ce n'était pas écrit qu'il occupait un poste, qu'il venait de terminer un CDD dans une banque de la place. Donc ça s'appelle un CV non actualisé. C'est quoi la différence, CV détaillé, Farida, Agnella?
Alors, le CV actualisé va simplement comprendre toutes les dernières expériences et réalisations professionnelles. Et nous, recruteurs, employeurs, on est friands d'un CV qui est actualisé parce que, comme Farida le partageait, c'est vraiment la carte de visite qui permet d'avoir en quelques secondes une visibilité sur qui professionnellement le profil, les aspirations via justement le projet qui est fait. Et puis, le bagage, je dirais, professionnel, mais aussi académique.
Ça veut dire actualiser, ça veut dire que sur le CV, on doit voir immédiatement, en ce moment même, où se trouve le candidat.
Absolument.
Tout à fait.
D'accord. CV détaillé, ça veut dire qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai acquis comme compétences durant mes stages, durant le poste que je viens d'occuper pendant 5 mois, par exemple?
Alors, moi, j'aurais une différente approche. C'est vraiment, je dis, j'ai 2 CV. Je recommande aux personnes d'avoir 2 CV. Le CV détaillé, c'est vraiment pour eux, pour savoir tout ce qu'ils ont accompli, toutes les compétences, les réalisations. Et donc maintenant, quand ils répondent à une offre, ils vont actualiser, c'est-à-dire qu'ils vont aller piocher dans le CV détaillé les expériences, les compétences qui correspondent à l'offre actuelle, en fait. Donc, comme ça, ça permet vraiment, parce qu'on ne peut pas avoir un CV kilométrique. Il faut avoir un CV synthétique qui va droit à l'essentiel. Donc, c'est vraiment de dire à nos auditeurs, vous avez toujours ces 2 éléments. Donc, comme ça, vous avez quelque chose d'exhaustif, mais qui est uniquement pour vous. Et le CV actualisé, c'est vraiment ce que vous allez envoyer au recruteur qui répond à l'offre à laquelle vous répondez.
Agnella, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Très bonne idée, c'est 2 CV. Hein. C'est dans ce CV exhaustif que je vais piocher comme dans un tiroir et que je vais aller fournir les compétences qui sont demandées pour répondre à l'offre d'emploi.
C'est ça, en fonction du projet, en fonction de l'offre d'emploi. C'est hyper complet ce que vient de dire.
Ouais. Et concernant la lettre de motivation?
Alors, dans une lettre de motivation...
Quelle est la différence avec une lettre de demande, nous disait Philippe?
Une demande d'emploi. Dans une demande d'emploi, on va simplement mentionner qu'on souhaite postuler à un emploi. Une lettre de motivation va être un peu plus complète dans la mesure où on va valoriser tout ce qui est atout en montrant au recruteur qu'on a toutes les qualités, les compétences requises pour le poste. Donc on va un peu plus loin dans la lettre de motivation.
Et puis une question aussi d'Elvis à Goma en RDC. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les critères d'un bon CV? Quels sont les éléments essentiels à mettre en première page, à la lumière de tous les CV qu'on a sous les yeux, là, dans le studio, aujourd'hui, de 7 milliards de voisins? Quelques erreurs à ne pas faire, quelques points essentiels à retrouver. Alors évidemment, il faudrait plusieurs heures d'émission pour faire un vrai bon conseil sur le CV.
Mais, alors, on va revenir peut-être sur 5 règles de base, déjà, et puis je pense que c'est un bon démarrage. Votre état civil, on doit voir tout de suite votre nom, votre prénom, mais j'ai vu beaucoup de CV où vous indiquez votre situation matrimoniale qui relève de votre vie privée. Donc, tout ce qui relève de la vie privée, la date de naissance, le lieu de naissance, ce n'est pas nécessaire sur un CV. Je ne sais pas ce que tu en penses, Agnella. Donc, c'est vraiment, voilà,
oui,
votre numéro de téléphone, votre email, parce qu'on doit pouvoir vous joindre. Donc là, dans le dernier CV qu'on avait, on n'a pas d'adresse email, en fait. Mais on a une date de naissance, un lieu de naissance. Donc, il faut aussi identifier ce qui est important.
Ça n'est pas un état civil, hein, on est bien d'accord.
Oui, non, mais voilà, l'idée, c'est juste d'avoir les informations pertinentes, pas l'exhaustivité. Ensuite, le titre du poste que vous recherchez, Ça, c'est important, parce que c'est ça qui indique votre projet professionnel. Donc, ça permet tout de suite, surtout une entreprise où il y a différents postes qui sont ouverts, ça aide aussi le recruteur. Donc, mettre en titre curriculum vitae, ça n'a aucune valeur ajoutée. Mais si vous êtes responsable comptable ou autre, ça va apporter bien évidemment l'expérience professionnelle de manière par ordre décroissant, parce que parfois, on voit des CV où on commence par l'expérience la plus ancienne, non, commencez par la plus récente, en indiquant vraiment vos compétences, votre formation, bien évidemment, et la catégorie centre d'intérêt que parfois on néglige, mais qui met en lumière un peu la personnalité du candidat. Et là, on peut se dire, ah, bah tiens, j'aimerais bien le rencontrer. Donc ça aussi, ne mettez pas juste sport ou autre.
Oui. Ne mettez pas cinéma-foot, hein, c'est
voilà,
pas la peine,
vous n'allez pas sortir du lot. Mais trouvez une petite accroche qui va montrer votre personnalité.
Oui, vous êtes tous différents, il faut bien le montrer.
Bonus 6, attention à l'orthographe. Donc faites-vous relire, demandez à des personnes, à vos amis, à votre entourage, qu'est-ce que tu penses de mon CV ? Parce que parfois on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne voit pas, ça nous paraît génial alors que ce n'est peut-être pas assez lisible.
Globalement aujourd'hui, on a de bons CV qui sont bien faits, qui sont fournis, qui sont faits avec soin. Et il ne manque pas grand-chose finalement pour que le CV soit très lisible. Je repense au CV d'Amadou, hein, qui est informaticien, qui a écrit en très gros curriculum vitae inutile. En revanche, il a écrit en petit, pas en gras, pas en gros, ingénieur de conception en réseau informatique, 3 ans d'expérience dans le domaine IT support. Ça, faut que ça soit en gros. Ça, faut que ça saute aux yeux. Et donc, voilà, il manque pas grand-chose. Hein. Allez, vous continuez de nous appeler au 33 7 64 45 51 41. Dans quelques secondes, on donne la parole à Henrik, qui est à Paris et qui est originaire de RDC.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Henrik, bonjour, vous avez 25 ans.
Oui, bonjour madame.
Soyez le bienvenu Henrik. Vous avez une question très intéressante pour nos spécialistes sur l'emploi des jeunes. Dites-nous juste un petit mot de votre parcours et posez votre question.
Alors, concernant ma question, j'ai une licence en comptabilité et gestion obtenue depuis quelques années passées. Du coup, j'ai eu à travailler dans le groupe Accor et à la Société Générale. Du coup, il y a un peu moins de 2 ans, j'ai démissionné pour me lancer dans mon compte personnel. J'ai créé une entreprise de transport de marchandises et des personnes. Oui. Je voudrais savoir c'est quoi.
Bravo déjà.
Merci. Pour l'instant, tout va bien et je compte développer mon entreprise et j'espère que je le ferai très bientôt. Donc, parallèlement, j'aimerais continuer. Je vais faire un master en comptabilité gestion, histoire d'avoir plus de compétences. Mais j'aimerais savoir, en fait, le fait d'être chef, genre jeune, chef d'entreprise, puis plus tard, j'aimerais travailler dans des grands groupes. Genre, je suppose que dans mon CV, je mettrai le fait que j'ai été chef d'entreprise. Est-ce un avantage ou un inconvénient d'avoir été chef d'entreprise, en fait ?
C'est une très, très bonne question, ça. Surtout qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui se lancent dans l'entrepreneuriat, par goût ou par obligation.
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'on peut répondre, Farida, à Henrik ?
Avant de répondre, j'aimerais finalement... Tout va dépendre de son projet professionnel. Donc, Henrik, finalement, quel est votre souhait ? Est-ce que vous voyez retourner en entreprise ? Est-ce que ça va être une transition temporaire ? Parce qu'en fonction de votre... projet, on va voir comment on va répondre, en fait.
Pourquoi vous voulez retourner dans un grand groupe ? Vous trouvez que c'est trop stressant d'être chef d'entreprise à 25 ans ?
Non, pas forcément, en fait. Je souhaiterais bien travailler toujours dans mon entreprise. Après, je ne suis pas fermé. C'est pour que je puisse travailler dans... une entreprise plus grande que la mienne. Donc, dans des organismes internationaux, on ne sait jamais ce que l'avenir nous prévoit.
Ça, c'est les jeunes. Hein. Ils veulent être partout à la fin.
Oui, mais bien évidemment, c'est bien d'être ouvert, mais vous devez quand même avoir une ligne directrice. Parce qu'en fonction, ça va être important et vous n'allez pas tenir le même discours, en fait, au niveau de l'entreprise. Donc, et on va voir comment, effectivement, est-ce que, du coup, votre entreprise personnelle, c'est... comme on dit, un side business avec juste une activité parallèle que vous pouvez faire au même titre qu'il y a des personnes qui vont investir dans l'immobilier, etc. Et en gros, c'est le soir et le week-end. Ou ça, vous voulez toutefois que ça reste votre activité principale ?
Activité principale, j'aimerais bien développer mon entreprise et que ce soit plus grand.
Mm-hmm.
Ouais, donc plus grand. Pour l'instant, le fait que je suis chef d'entreprise, je suppose que j'acquiers des j'acquiers des compétences dans tout ce qui est management, gestion d'entreprise, en fait, que je pourrais mettre dans un gouvernement, dans une grande entreprise internationale. Donc,
oui, mais
voilà.
la question, moi, je veux vous recruter. Je veux vous recruter. Je vais dire, oui, mais vous venez chez nous, pourquoi? Et combien de temps ça va vous prendre? Est-ce que votre entreprise ne va pas vous détourner parce que vous ne serez pas focalisé, parce que vous ne serez pas disponible? Parce que gérer une entreprise, ce n'est pas non plus, j'ai envie de dire, quand on est chef d'entreprise, tous les jours, on a de nouveaux défis.
Moi, je n'arrive pas bien à comprendre ce que vous voulez, Henrik.
Alors, supposons que d'ici 5-6 ans, que je puisse fermer mon entreprise. L'effet d'avoir été chef d'entreprise pendant toutes ces années, est-ce un avantage pour moi par rapport à une personne qui n'a pas été chef d'entreprise?
D'accord. Alors, donc,
c'est différent.
D'accord. Vous fermez l'entreprise et vous postulez à un grand groupe, par exemple.
Une entreprise.
Voilà, du même type de celui des postes que vous avez occupés auparavant.
Et là, c'est différent, en fait, parce que ça, il y a des cas, et vous avez le droit d'expérimenter l'entrepreneuriat et pour X ou Y raison, décider de retourner. Et pour l'entreprise, ça a une valeur ajoutée, parce qu'on voit vraiment votre personnalité, que vous êtes capable de prendre des risques, que vous osez. Donc, ça va être important, en revanche, pour vous, de postuler au bon poste.
Agnella, vous qui cherchez...
personnalité va pouvoir, sinon vous allez être frustré en fait, parce que quand vous avez été dirigeant pendant X années, que vous retournez sur des postes subalternes, ça peut être compliqué. Donc ça va être important pour vous d'identifier les bons postes et de montrer que c'est une continuité en fait, d'aller dans cette entreprise par rapport à ce que vous allez leur apporter.
Agnella, vous qui cherchez toujours la petite bête sur les CV, vous êtes recruteur, vous méfiez d'un candidat qui a été chef d'entreprise?
Alors moi, je vais me méfier d'un candidat qui ne sait pas où il va et pourquoi est-ce qu'il est devant moi. Voilà, donc c'est vraiment en résonance avec ce que partage Farida. Henrik, prenez le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez faire. Pourquoi est-ce que vous prenez les décisions que vous preniez? Pourquoi est-ce que vous réalisez les expériences? Enfin, pourquoi est-ce que vous êtes en train d'acquérir les expériences qui arrivent? Plus ça va être clair pour vous, plus vous allez savoir l'expliquer au recruteur. Sinon, dans l'absolu, le fait d'être chef d'entreprise fait que vous allez acquérir une palette de compétences qui peut vous différencier si vous êtes dans une fonction justement à responsabilité, bien au contraire. Mais si vous donnez l'impression de pouvoir toucher à beaucoup de choses, non seulement peut-être vous perdez un peu, mais vous nous perdez aussi nous. Voyez, et ça ne crée pas un effet positif, malheureusement.
Henrik, est-ce qu'on a bien répondu à vos questions?
Oui, j'ai compris, oui. Très bien, merci.
Merci à vous, en tout cas, et très bonne journée à Paris.
Au revoir.
Merci Henrik. Vous continuez de nous appeler au 33 7 64 45 51 41. Nous sommes en ligne avec Evrard, qui est à Brazzaville, au Congo. Bonjour Evrard.
Bonjour Emmanuel.
Et soyez le bienvenu Evrard. Donc vous avez un master en management des organisations des ressources humaines. Et vous avez une question précise parce que vous avez un CV qui est très fourni, notamment une expérience au centre hospitalier universitaire de Brazzaville à la DRH. Hein. Et aujourd'hui, vous êtes un peu dans l'embarras.
Oui.
On vous écoute, Evrard.
Oui, en fait, j'ai fait 13 mois au niveau du centre hospitalier universitaire de Brazzaville, au CHU. Dans la direction de RH, mais j'ai postulé récemment au niveau de l'ASI, l'Agence de solidarité internationale, concernant un poste de responsable d'accueil.
Oui. Responsable d'accueil de jeunes femmes en situation de vulnérabilité, de jeunes femmes à la rue, hein, c'est ça?
Oui, c'est cela. En rapport avec... les 5 ans que j'ai eu à faire au niveau d'un projet violence basée sur le genre de l'Église évangélique du Congo.
C'est ça. Où là, vous étiez bénévole hein, pour cette expérience.
Oui, c'est du bénévolat. On avait juste le déplacement à la fin du mois.
D'accord.
Non, c'était du bénévolat.
Oui. Et donc, votre question, Evrard?
Oui, ma question est la suivante. Lorsque je postule pour un emploi, et pourtant, j'ai de l'expérience professionnelle, mais je ne suis jamais appelé par le recruteur, soit pour passer ne fût-ce que la première phase d'entretien ou la première étape de la sélection.
Oui.
Je me demande pourquoi est-ce que c'est par rapport à la manière que je rédige ma demande d'emploi ou ma lettre de motivation ou bien la présentation de mon CV. Parce que j'ai un master depuis 2014. Jusqu'à là, je n'ai pas d'emploi.
Et vous n'arrivez pas jusqu'au stade des entretiens. Effectivement, c'est une vraie question. Il y a un CV en bonne et due forme, une lettre de motivation. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre ?
Une petite question déjà pour Evra. Donc, vous avez postulé, parce que vous dites, donc vous êtes diplômée depuis 2014. Depuis 2014, vous avez postulé et à chaque fois, vous n'êtes jamais appelée.
Ah oui.
Et donc, vous avez envoyé combien de candidatures ? Vous avez répondu à combien d'offres d'emploi ?
Bon, j'ai fait au moins plus d'une trentaine.
Plus d'une trentaine sur depuis 2014 ?
Depuis 2014, et puis j'ai fait aussi des demandes spontanées.
Et combien de demandes spontanées ?
J'ai fait au moins une quinzaine.
D'accord. Donc la question, en fait, vous n'avez pas assez postulé. C'est dur à dire, mais si vous avez répondu à 30 offres depuis 2014, ce n'est juste pas suffisant. Moi, je dis à mes clients, vous devez faire en 30 par semaine.
Oui, alors après, il y a le marché des offres d'emploi sur le continent africain qui est ce qu'il est aussi, décharge.
C'est aussi pour dire que parfois, on a l'impression qu'on n'est pas appelé, mais on ne réalise pas que c'est d'abord une question de nombre. Et donc forcément, plus on va postuler, plus on va être à l'aise, plus on augmente ses chances, en fait.
Est-ce que vous postulez, par exemple, aussi à des offres d'emploi dans des pays de la sous-région, Evrard ?
Je l'ai fait juste deux fois.
Donc, vous êtes mobile ?
Oui.
Agnella ?
Oui. Donc oui, clairement, en termes de, je veux dire, de quantité, Evra, il va falloir booster un peu plus les choses. Vous postulez à quel type d'offre, à quelle position, quelle fonction ?
Bon, mais ça dépend de l'offre qui se présente en France. Vu que j'ai fait gestion de ressources humaines, donc les offres qui concernent l'administration, peu importe le poste, je peux le faire.
Et vous envoyez à chaque fois le CV que vous nous avez transmis, c'est celui-là que vous envoyez spontanément à chaque fois, c'est le même ou vous travaillez quand même un peu votre CV en fonction des offres ?
Oui, en fonction des offres, je prépare mon CV par rapport à l'offre qui a été publiée et je m'appuie notamment sur la question que le nouveau recrut va expliquer.
Bon, mais c'est bien ça. Il y a quand même une liste de missions et de compétences qui est importante sur ce CV.
Absolument. Alors moi, ce que je veux vous dire, Evra, c'est que votre CV, il est très riche. Il est tellement riche qu'on peut s'y perdre, sincèrement. Voyez, par exemple, quand vous mettez en fonction que vous êtes stagiaire, vous l'écrivez même police, même couleur que vos missions. Du coup, déjà stagiaire, c'est pas une fonction en soi. Ce qui serait intéressant, c'est que vous mettiez vraiment la fonction que vous avez occupée, voyez, pour que le regard se pose dessus. Parce que la première lecture, c'est quelques secondes, c'est pas des minutes. Donc, de pouvoir justement identifier que vous êtes dans les ressources humaines et que vous visez un poste en particulier, une fonction en particulier, et ensuite que le regard, enfin que l'œil puisse dérouler en validant les informations au fur et à mesure. Peut-être un peu plus mettre en lumière votre expérience au sein du CETEPAD. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, pour répondre à votre demande. Vous avez postulé une offre pour laquelle vous avez des expériences. Il faudrait peut-être la valoriser un peu plus. Voyez, ce qui est textuellement demandé dans l'offre, la mettre en lumière dans votre CV. Et puis voilà, pour compléter les conseils, vraiment, tout ce qui est code couleur, c'est vraiment essentiel. Utiliser les couleurs les plus neutres possibles. Après, tout dépend de l'environnement où vous postulez, pour faciliter la lecture et qu'on puisse tout de suite absorber ce qui est noté, se dire c'est bon, ce profil nous intéresse.
Un CV très riche, c'est toujours plus facile de simplifier un CV riche que d'étoffer un CV où il n'y a pas grand-chose. Donc finalement, la tâche n'est pas du tout insurmontable pour vous, Evra. Est-ce que tous ces conseils vous ont été utiles ?
Très utile pour moi, madame.
Merci à vous et puis très bonne journée. À Brazzaville, vous êtes très nombreux à souhaiter passer dans l'émission, à poser vos questions. On donne la parole au 33 7 64 45 51 41. Les jeunes, le marché de l'emploi, vos CV, vos compétences, comment vous valoriser. Nous donnons la parole à Fanema qui est à Ouagadougou. Bonjour Fanema.
Bonjour.
On vous écoute Fanema, vous avez une formation en marketing.
Oui.
Et on vous écoute Fanema.
D'accord. Moi, je suis Soulama Fanema, j'ai 39 ans. J'ai fait marketing jusqu'à master. Maintenant, j'ai évolué dans le commercial.
Oui.
Et en 2019, avec le Covid, le travail a été arrêté, donc je ne travaillais plus. J'ai fait une année. Et après ça, j'ai fait des offres, j'ai postulé, j'ai des retours, on m'appelle pour entretien, je fais l'entretien, mais après, il n'y a plus rien.
À l'heure actuelle, vous êtes téléconseillère, hein, c'est bien ça?
Oui, je suis actuellement téléconseillère.
Mmh. Et vous avez aussi créé avec des amis une société de géolocalisation, mais avec
oui,
la pandémie,
c'est
ça, avec la pandémie, elle s'est arrêtée, cette
ça,
société.
Voilà, avec la pandémie, la société de géolocalisation, c'est en stand-by pour le moment.
Oui, d'accord. Et votre question alors, Fanema?
Alors, ma question aujourd'hui, c'était quelles sont les étapes à respecter pour se reconvertir, quel que soit le choix du projet?
Parce que vous voulez donc vous reconvertir, vous voulez quitter le marketing?
Oui, je veux vraiment pouvoir quitter le domaine puisque je n'arrive pas à trouver ce que je veux faire. Et peut-être je vais entreprendre, quitter complètement ce domaine en fait.
Et vous voulez faire quoi?
Actuellement, j'ai en tête... Investir dans l'enfance, c'est-à-dire la maternelle, garder un peu dans l'enfance.
D'accord.
Ou me reconvertir en fait dans l'alimentaire parce que je vois un peu le projet depuis.
D'accord, l'agroalimentaire qui est un secteur qui a le vent en poupe en ce moment. Alors, voilà. Que peut-on répondre à Fanema Farida Kadiri?
Oui, alors j'écoutais très attentivement le projet de Fanema. Alors, un projet de reconversion n'est pas neutre et ça se mûrit. Et souvent, si vous le faites par défaut, dans quelques années, vous allez vous retrouver coincé. C'est pour ça que la question d'Emmanuel est très importante, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire? C'est d'abord le plus important. Ne vous dites pas juste « je ne trouve pas dans le marketing » parce que ce n'est pas les bonnes motivations et dans quelques années, ça va vous retomber sur la tête. Donc la première question que j'ai pour moi, c'est si vous aviez un poste aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motiverait le plus? Qu'est-ce qui vous intéresserait le plus? Continuer dans le domaine marketing et commercial ou vous lancer dans tout ce qui est enfance maternelle ou l'agroalimentaire?
Fanema.
Actuellement, tout de suite, si j'ai une opportunité, moi, c'est d'entreprendre et dans l'agroalimentaire.
D'accord. Pourquoi?
Parce que c'est un domaine que j'ai un peu étudié. Comme ça, je sors dans mes achats, j'étudie un peu, je vois en fait que les gens n'ont pas beaucoup de formation pour ce qui concerne les épices pour pouvoir les utiliser.
Et donc,
on peut utiliser, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas dans quel repas mettre, dans quel main en fait on utilise comme ça.
Et donc, quand vous dites que vous voulez entreprendre dans l'agroalimentaire, spécifiquement, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quels sont les produits ou les services que vous souhaitez apporter dans ce domaine?
Les produits actuellement, c'est tout ce qui concerne les épices dans la cuisine.
D'accord.
Fanema, vous allez passer dans notre émission cuisine un jour.
et donc, allez-y, parce que c'est ça qui est important. On doit comprendre et en fonction de ça, vous allez réfléchir justement quelle est la meilleure stratégie de reconversion, comment vous préparer à ça et surtout comment réussir dans ce domaine.
D'accord.
Donc, allez-y, j'écoute puisque vous me disiez, voilà, les épices, mais encore. Est-ce que vous avez fait une étude de marché? Est-ce que vous avez étudié la concurrence?
Actuellement, je suis sur l'étude de marché. J'ai déjà élaboré le questionnaire, mais ce n'est pas encore administré.
Mm-hmm.
Et donc, je suis à cette phase-là. Mais pour ce qui concerne la concurrence également, j'ai un peu étudié. En fait, on a quelques supermarchés ici. Quand on rentre, nous, on ne connaît pas les épices, mais on a besoin de conseils, en fait, pour savoir dans quelle sauce on peut mettre ça, dans quel repas on peut mettre ça. Mais bon, quand on rentre dans le supermarché, en fait, tu rentres parce que tu connais, tu payes.
Donc, ce que vous voulez faire, c'est vraiment du conseil.
On connaît le cube, quoi, voilà.
Oui, voilà, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, ce que vous voulez faire, c'est vraiment du conseil. Donc, moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est, pour l'instant, vous continuez, oui. Donc vous organisez, vous gérez votre temps, vous continuez à rechercher un emploi dans le domaine du marketing et du commercial, parce qu'une entreprise, si vous n'avez pas les fonds et tout, il faut quand même le financer. Et prenez du temps les soirs, les week-ends, pour avancer sur votre projet entrepreneurial, jusqu'à ce que ce soit mûri, que vous sentiez que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir avant de faire la transition. Oui. D'accord?
D'accord. Une dernière question pour Fanema.
Oui, quelques secondes.
Fanema, qu'est-ce que vous recherchez idéalement aujourd'hui? Enfin, je veux dire professionnellement, hein, pas le projet d'entrepreneuriat.
Dans l'idéal, Fanema.
Dans l'idéal, moi, ce que je souhaiterais tout, avant même de commencer, j'avais souhaité travailler dans les compagnies aériennes.
Bon, d'accord. Bon, il va falloir faire...
Il y a beaucoup de choses,
oui,
en fait.
Il va falloir
faire un peu de lumière dans tout ça.
Fanema, en tout cas, merci de vous avoir, de nous avoir appelés, parce que vous avez plein d'envie, plein d'expérience aussi. Et vous nous montrez tous l'image d'une belle jeunesse, hein, dynamique sur le continent africain. Farida, vous êtes d'accord, on a reçu énormément de CV très intéressants aujourd'hui.
Oui. Donc, j'ai envie de dire le maître mot, c'est rester focalisé sur vos objectifs et n'ayez pas peur de réécouter les émissions, parce que même le CV, ça se maîtrise pas en une fois. Réécoutez tous les précédents podcasts et posez-vous la question, est-ce que les conseils que Agnella et Farida ont donnés, est-ce que je les ai appliqués dans mon CV, dans ma lettre de motivation? Et vous allez voir que à force de le faire, vous allez progresser, vous allez améliorer et vous allez commencer à voir que les recruteurs vont vous rappeler beaucoup plus facilement. Il n'y a pas de recette miracle.
Et ben voilà, c'est très
simple. C'est la répétition et le travail.
Vous allez sur RFI.fr et vous réécoutez toutes nos émissions sur l'emploi et les jeunes. Merci à toutes les deux. Merci Farida Akadiri. Merci Agnella Vekwaku.
Merci.
Vous étiez en direct d'Abidjan. Merci à vous. Vous êtes consultante en ressources humaines, fondatrice de Agiloya Afrique, cabinet de conseil en Côte d'Ivoire. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas pu passer dans l'émission. Vous êtes nombreux à nous solliciter. On vous donnera la parole en priorité dans la prochaine émission sur les recherches d'emploi. Merci aussi à toute l'équipe qui prépare cette émission. Delphine de Dianous, qui réceptionne vos CV, qui vous aide à mieux formuler vos questions, histoire de ne pas être challengée trop durement par les conseillères. Merci à Juliette Brault, à Romain Dubrac, à Olivier Roux. Demain, 7 milliards de voisins, comment parler d'argent aux enfants? Et puis surtout, vendredi, ne manquez pas l'émission, notre reportage au Bénin, dans la vallée protégée du site Atunga, à 30 km de Cotonou. Surpêche, braconnage, déforestation, dégradation des sols. Comment protéger l'environnement sans appauvrir les populations locales? Et puis avec la croissance urbaine, comment protéger ce poumon vert des appétits immobiliers? C'est un reportage de Raphaël Constant, passionnant. On se quitte et dans quelques instants, ce sera le journal juste après. Ljubljana, Maminyanga. You gave me life tonight in ways you don't notice. I know this love and right, this feeling I can't hide it. Like the moon and the sun, I keep coming back to you. Like the stars through the night, can't go on without you by my side. Maminyanga, you got nothing on me. Maminyanga, you got nothing on me. Nothing on me, nothing on me. Maminyanga, you got nothing on me. I'm all you need, I'm all you see. Maminyanga, you got nothing on me. Nothing on me, nothing on me. Maminyanga, I'm here to stay. You made my world light up. Nothing ever came so easily. Boy, I know that it's
7 milliards de voisins, c'est fini. Autour de la question.